Vous êtes sur RTL.
8h. Place à l'info, RTL Soir, Thomas Soto. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Il y a comme un air de campagne depuis quelques heures et qui dit campagne dit débat sur l'insécurité. C'est devenu un grand classique et Emmanuel Macron visiblement n'y échappe pas. Le chef de l'État qui était à Montpellier tout à l'heure, au programme bain de foule, pas toujours très Covid, et petite balade avec une équipe de la BAC, la Brigade Anticriminalité. On en parlera dans le journal bien sûr et aussi à 18h15 avec Frédéric Pechenard, l'ancien patron de la police sous Nicolas Sarkozy qui est aujourd'hui le monsieur sécurité de Valérie Pécresse Conseil régional d'Île-de-France. Bonsoir Robert Nuccio.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
On découvre avec vous les autres grands titres dans l'actualité de ce lundi 19 avril.
Avec cette question, le nombre de policiers et gendarmes a-t-il sensiblement augmenté? On s'intéressera aux chiffres des trois derniers quinquennats. L'application Tous Anti-Covid transformée dès ce soir comme une sorte de passe sanitaire pour faciliter les voyages. Et puis en football, le projet de Super League qualifié de proposition honteuse par les instances européennes.
Notez qu'à 18h30, c'est Nico Saliagas qui sera là le photographe Aliagas, puisqu'il expose à partir de demain à la mairie de Paris, exposition, en plein air. La météo, bonsoir, c'est Linda Costa.
Bonsoir Thomas, bonsoir
à tous. Avec vous, c'est presque le retour de la douceur.
Oui, on peut le dire, il a fait 21 degrés cet après-midi à Carcassonne, 19 à Bordeaux, 17 à Paris ou encore 15 à Saint-Brieuc. Ce sont des valeurs de saison et ça va continuer au moins jusqu'à jeudi. Alors on a dit presque parce que à partir de jeudi, on aura un petit vent frais qui va faire baisser tout ça. On en reparle tout à l'heure. Côté ciel, demain, ça sera encore agréable. On en profite surtout le matin, puisque le soleil bien présent sera bien présent, mais les nuages vont arriver par l'Atlantique et on pourrait même avoir quelques petites gouttes dans l'après-midi sur l'est du pays.
Merci, à tout à l'heure.
RTL Soir.
C'est donc l'image du jour. Emmanuel Macron dans une voiture de la BAC à Montpellier. Chaque Français verra plus de bleu sur le terrain en 2022 qu'en 2017. Il l'annonçait dans une interview au Figaro. Le chef de l'État a voulu montrer qu'il était proche des forces de l'ordre, Jacques Serret.
Oui, 40 minutes en immersion dans une voiture banalisée aux vitres fumées de la BAC, la brigade anticriminalité. Voilà comment Emmanuel Macron a voulu mettre en scène cette nouvelle offensive sur le terrain, aux côtés des BACEUX, comme on appelle ces fonctionnaires de police. Le chef de l'État qui s'est également rendu sur un ancien point de deal démantelé, l'occasion d'un mini bain de foule malgré le contexte sanitaire. L'occasion aussi d'échanger avec une mère de famille.
Monsieur le Président, j'ai mon fils qui a 8 ans. Il m'a demandé si le prénom de Pierre existait vraiment ou c'est que dans le livre. Tellement qu'il y a un manque de mixité dans le quartier. Et je lui ai dit non, mon fils Pierre existe vraiment. Il y a des gens qui s'appellent Pierre.
Et malgré un accueil houleux aux abords de la cave du quartier de la Mausson, le chef de l'État a martelé son message.
Quand on habite des quartiers comme celui-ci ou autre, le premier droit qu'on a aussi, comme partout, c'est de vivre dans le calme et dans l'inquiétude.
Un an de la présidentielle, Emmanuel Macron ne compte pas laisser le thème de l'insécurité à sa principale rivale, Marine Le Pen.
Jacques Serret du service politique d'RTL. Emmanuel Macron maintient donc son cap de 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires d'ici 2022. Déjà 7 000 recrutés. Guillaume Chies, bonsoir.
Bonsoir.
Concrètement, si on regarde les effectifs sur les trois derniers quinquennats, est-ce que ça augmente?
Oui, ça augmente même nettement. Il faut dire qu'on est parti de très bas. En 2007, pour la première année de son quinquennat, Nicolas Sarkozy fait adopter une révision générale des politiques publiques. Le but, c'est de diminuer les dépenses de l'État. Les forces de l'ordre sont évidemment ciblées. Un départ sur deux à la retraite ne sera pas remplacé. Résultat, en 5 ans, près de 13 000 postes de policiers et gendarmes ont disparu. 2012, François Hollande est élu. Il promet d'en recruter 9 000 de plus en 5 ans. Et les attentats de 2015 et 2016 vont accélérer le processus avec des concours de recrutement exceptionnels. L'objectif est quasiment atteint à 200 postes près. Ajoutez à cela les 7 000 déjà recrutés depuis 2017 sous Emmanuel Macron. Le problème, c'est qu'il faut former tout ce monde, les former vite. En 2020, Christophe Castaner décide donc de baisser de 12 à 8 mois le temps passé en cours théorique. Une erreur selon Gérald Darmanin qui compte repasser à 12 mois dès l'année prochaine.
Guillaume Chies du service police-justice RTL. Merci Guillaume. On en parlera bien sûr dans un instant avec Frédéric Pechenard, invité d'RTL Soir. Et puis en marge de ce déplacement à Montpellier, un homme a été grièvement blessé par balle. Ça s'est passé en plein centre-ville. Son pronostic vital est engagé. Le tireur a pris la fuite. Une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre. C'est dans ce contexte, Aude, que le verdict du procès en appel de Viry-Châtillon a été rendu ce week-end. 5 jeunes condamnés de 6 à 18 ans de réclusion criminelle et 8 autres qui ont été acquittés.
Incompréhensible pour les syndicats de policiers après la violence de cette agression en 2016. Parmi les blessés, Jenny, qui avait réussi à s'extirper d'une voiture en flammes au prix de graves brûlures. Son mari, Jérôme, parle d'une énorme déception. Fillon.
C'est une porte ouverte, là. Ça veut dire que demain, vous pouvez attaquer un représentant des forces de l'ordre, qui que ce soit. Et ben, demain, vous allez prendre entre 0 et 6 ans. Ouais, y en a, ils ont pris quand même 3 et qui ont pris 18 ans. Mais bon, c'est moins que la première fois. Donc, ça veut dire qu'on allège à chaque fois. Donc, bon, c'est quand même dingue.
Et votre compagne, elle partage cette incompréhension?
Ah oui, mais surtout, elle y a été tous les jours, elle a été assidue là-dessus. C'est complètement là, anéantie, là. C'est compliqué, là. C'est dans la tête, hein, toujours qui est dur. Ça fait 5 ans qu'elle est suivie, ça continue. Donc, vous imaginez, on lâche pas, c'est du quotidien, c'est quelque chose qui s'efface pas, qui est compliqué, hein.
Jérôme, le mari d'une des policières brûlées à Viry-Châtillon en 2016, les blessés seront reçus par le ministre de l'Intérieur la semaine prochaine. La petite Mia est saine et sauve et elle a retrouvé sa grand-mère dans un endroit tenu secret. La fillette de 8 ans, enlevée la semaine dernière dans les Vosges à la demande de sa mère, a été retrouvée hier matin en Suisse dans un squat de la commune de Sainte-Croix.
Il est 18h06 et depuis quelques minutes, il y a du nouveau sur l'application Tous Anti-Covid. Aude, il y a une nouvelle utilité en fait.
En plus de générer des attestations et de suivre les chiffres de l'épidémie. Elle permet désormais de stocker les résultats de vos tests PCR ou antigéniques comme une sorte de passe sanitaire pour faciliter les voyages. Nerissa Emani, comment ça va fonctionner ?
Alors c'est assez simple, après un test PCR ou antigénique, vous allez recevoir vos résultats comme d'habitude, mais aussi un SMS qui vous permettra de vous identifier et de récupérer un QR code, une sorte de code barre qui s'affiche déjà sur les attestations de déplacement par exemple. C'est avec ce code que vous pourrez télécharger le résultat de votre test positif ou négatif sur l'application. Alors ce tout nouveau QR code va permettre d'attester de l'authenticité du test, de le rendre infalsifiable et surtout de faciliter les contrôles des autorités. D'ailleurs, une expérimentation va commencer cette semaine pour les voyageurs métropolitains à destination de la Corse, puis vers les territoires outre-mer. Ces premiers testeurs pourront bientôt présenter leur QR code sur un papier ou directement depuis l'application. Ils seront lisibles par la compagnie aérienne ou les services de police. Alors attention, personne n'a l'obligation de télécharger l'application pour avoir cette certification sur le test. Vous pouvez simplement vous contenter d'un papier. À noter que dès le 29 avril, toute personne se faisant vacciner pourra obtenir ce fameux QR code et stocker son certificat sur l'application.
Nerissa Emani pour RTL.
Une petite pause et dans un instant, c'est la crise, la vraie grosse crise dans le foot et au niveau européen.
RTL Soir.
RTL Soir, Thomas Soto.
18h09, la suite du journal avec vous, Aude Vernuccio, et on va tout de suite en Russie avec un premier geste de Moscou dans l'affaire Navalny, du nom de l'opposant à Vladimir Poutine. Il a été transféré à l'hôpital, il n'est plus en prison.
Toujours incarcéré, ceci dit, et en grève de la faim depuis 3 semaines. La vie du militant serait en danger, selon ses proches. État satisfaisant, à en croire le Kremlin. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se sont réunis aujourd'hui pour tirer la sonnette d'alarme, Bénédicte Tassard.
Oui, Alexei, et Navalny a été transféré dans une unité carcérale hospitalière où on lui administre une thérapie vitaminée, informe Moscou. Mais hier encore, ses propres médecins avaient été refoulés à la porte de la colonie numéro 2 où il était emprisonné. Alors, comme les États-Unis ce week-end, cette fois, c'est l'Europe, par la voix de son haut représentant pour les affaires étrangères, Josep Borrell, qui exhorte Moscou.
Les autorités russes doivent donner à M. Navalny un accès immédiat aux professionnels de santé auxquels il fait confiance. Aujourd'hui, nous passons un message uni au pouvoir russe. Il est responsable de la sécurité et de la santé d'Alexei Navalny. Nous le rendons responsable.
Se montrer ferme face à la Russie sur l'affaire Navalny, sur l'Ukraine aussi. Mais le lien diplomatique n'est pas rompu. Vladimir Poutine, par exemple, vient d'annoncer sa participation au sommet climat organisé par les États-Unis jeudi en visioconférence.
Donc il est toujours en prison, mais dans l'hôpital de la prison.
À l'hôpital de la prison.
Pour être précis. Merci à vous, Bénédicte Tassard. On passe au sport. Enfin, est-ce que c'est encore du sport, cette guerre du foot européen qui a été lancée avec le projet de Super League ?
Qui regrouperait les clubs les plus riches de Manchester City à la Juve, en passant par le Real Madrid. Du côté des instances du ballon rond, l'UEFA n'a pas l'intention de se faire marcher sur les crampons, Isabelle Langer.
C'est une proposition honteuse de quelques clubs guidés par l'avidité, un crachat au visage de tous les amoureux du football. Alexander Seferin, le président de l'UEFA, n'a pas mâché ses mots pour dire tout le mal qu'il pense de cette Super League. Le Slovène a même contre-attaqué en proférant des menaces à l'encontre des clubs concernés, mais aussi des joueurs.
Les joueurs qui joueront dans les équipes qui disputent la Super League seront bannis de la Coupe du Monde et de l'Euro. Ils ne pourront donc pas représenter les équipes nationales.
Pour Philippe Pia, patron de FIFPro, le syndicat mondial des joueurs, il n'est pas question de se laisser faire, comme il l'a expliqué à Nicolas Georgerot.
On est pris en otage. Il s'avère que ce qui est bon pour les joueurs, pour l'instant, tout le monde s'en fout. Donc, on fera en sorte que la menace contre les joueurs ne puisse pas s'appliquer. On n'a pas le droit de s'immiscer dans la carrière ou dans le devenir des individus. C'est leur contrat de travail, c'est leur travail. Et nous, on s'opposera forcément aux menaces, qu'elles viennent d'un bord ou d'un autre.
La guerre des clans ne fait donc que commencer, mais les organisateurs de la Super League affirment d'avoir déjà anticipé et préparé les parades à d'éventuelles batailles juridiques. Selon nos informations, certains clubs poussent même à lancer la compétition dès le mois d'août prochain.
Merci Isabelle. Et à l'instant même, on apprend que Londres veut bloquer cette Super Ligue européenne au nom du droit à la compétition. Et c'est un ministre qui le dit.
Oui, c'est Boris Johnson, il est très remonté.
Ah, hein. C'est Boris Johnson directement qui a dit ça. Oui, non, comme quoi, c'est vraiment une affaire politico-sportivo, tout ce qu'on veut, économico et le reste.
On part dans l'espace, Thomas, jeudi, à 12h11 précise, heure de Paris.
Non, j'ai un truc, je ne peux pas venir, je suis désolé.
Ah, ben c'est dommage, Thomas Pesquet s'élancera quand même depuis Cap Canaveral, en Floride, vers la Station Spatiale Internationale. Il partira à bord d'un vaisseau SpaceX. Hier, une simulation de décollage a été réalisée. Alors à quoi est-ce qu'on pense 30 secondes avant le grand départ ? Réponse de l'astronaute.
Tout était familier en fait. Quand je regardais les écrans, la capsule, le sas qui était fermé, ben, ça me rappelait exactement ce qu'on a vécu au simulateur. Donc partant de là, c'est malheureusement quelque chose d'assez routinier. Ça me fait sourire parce que c'est quand même c'est des sensations agréables. Et puis on égrène un peu dans sa tête le compte à rebours. On a une pensée pour ses proches, pour sa famille. C'est quand même un moment un peu intense. Et puis très vite, on se tourne en fait vers la technique. C'est pas très poétique. C'est vrai que j'ai envie de rêver, mais on veut pas rater une seule action qui serait importante. Donc c'est un peu comme un sportif, je pense, qui s'aligne sur la ligne de départ pour la finale du 100 mètres des Jeux Olympiques. On pense qu'à une chose, c'est ça, quoi.
Des propos recueillis par Sophie Jousselin pour RTL.
La bonne nouvelle ?
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
On part encore plus loin, Thomas, à 278 millions de kilomètres de nous, du studio d'RTL. Un petit hélicoptère baptisé Ingenuity s'est élevé à 3 mètres au-dessus du sol de Mars pendant 39 secondes. Première fois que les experts arrivent à faire décoller et à faire voler un engin sur une autre planète que la Terre.
Oui, ils ont déjà réussi à faire voler quand même celle qui avait ramené ceux qui étaient sur la Lune.
Oui, évidemment.
Mais là, on parle d'un petit engin autonome, évidemment.
Tout à fait.
Merci beaucoup à vous, Aude, et à tout à l'heure. Dans un instant, c'est l'ancien patron de la police nationale, Frédéric Pechenard, qui est l'invité d'RTL Soir.
RTL Soir, Thomas Soto. RTL Soir, Thomas Soto.
Il a dirigé la police nationale sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Il est aujourd'hui vice-président Les Républicains de la région Île-de-France en charge de la sécurité. Frédéric Pechenard est donc l'invité d'RTL Soir. Bonsoir, bienvenue et merci d'être là, Frédéric Pechenard. Le chef de l'État était, on l'a vu, sur le terrain cet après-midi à Montpellier pour montrer sa volonté de lutter contre l'insécurité. C'est le genre de déplacement qu'affectionnait particulièrement Nicolas Sarkozy, lui aussi. Mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, ce genre de grand raout médiatique ?
Moi, je pense que, en tout état de cause, montrer que le président de la République montre qu'il s'intéresse au problème de sécurité et qu'il s'intéresse au problème de la police, c'est une bonne chose. Et après tout, la communication fait partie de ce que doit faire un homme politique. Après, il ne faut pas que la communication remplace l'action. La communication doit être là pour appuyer l'action. Mmh. Alors disons que cette séquence, pour moi, même si je la salue, je trouve qu'elle vient bien tard dans le quinquennat.
Bien tard dans le quinquennat. Alors le chef de l'État a adressé une perspective pour la fin de ce quinquennat et visiblement aussi pour le suivant. Il dit dans le Figaro qu'il veut plus de bleu et il promet donc qu'on va voir les policiers, les gendarmes sur le terrain. Qu'en pense l'ancien DGPN, directeur général de la police nationale que vous êtes ?
J'ai un peu l'impression en ce moment on fait un peu de saupoudrage. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le Premier ministre ou le Président de la République se déplace, et il dit, tiens, on mettra 50 policiers de plus là, 12 de plus là, etc. Tout ça se fait au préjudice de l'Île-de-France, hein, parce que les policiers, on ne les invente pas. Donc, quand on veut muter 50 policiers, par exemple, à Montpellier, on ouvre 50 postes. Évidemment, ce sont des franciliens.
Sauf que depuis le début du quinquennat, il y en a plus de 6000 nouveaux qui ont été.
C'est ce qu'on dit. Alors, moi, je ne les vois pas beaucoup, les policiers en plus. Et si je prends l'exemple de la police des transports, vous savez, dans les transports d'Île-de-France, il y a quand même des sujets de sécurité. La région, sous l'autorité de Valérie Pécresse s'est vraiment impliqué là-dedans, oui. Mais entre le moment où nous avons été élus et aujourd'hui, nous avons perdu 500 policiers et gendarmes dans les transports en commun.
Est-ce que vous remettez en cause les chiffres Est-ce que vous remettez en cause les chiffres donnés par le ministère de l'Intérieur sur le nombre de policiers supplémentaires depuis le début du quinquennat ?
Je ne remets pas en cause, par définition, ce que dit le ministre de l'Intérieur. Je constate juste que, en tout cas, dans la police régionale des transports et transports de l'Île-de-France, qui sont un vrai sujet de sécurité, oui. Il y a 500 policiers et gendarmes de moins. Je l'ai dit dans le Figaro. J'ai même défendu ce chiffre dans l'info du vrai du JDD qui m'a donné raison. Donc depuis, il n'y a pas de discussion. Donc il y a peut-être des policiers ailleurs, mais en tout cas, il n'y en a pas plus en Île-de-France.
Donc
ça,
vous
c'est
dites
sûr.
Qu'on déplace les policiers aujourd'hui, c'est ça,
Bien sûr, mais c'est toujours été un des problèmes d'organisation et de RH de la police, c'est que les jeunes sortis d'école se retrouvent en Île-de-France. Et personne ne veut rester en Île-de-France parce que c'est plus cher, et puis parce que c'est plus dur qu'ailleurs. Et donc, les provinciaux veulent revenir en province. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc à chaque fois que vous ouvrez les vannes, et puis...
Sauf que, pardon Frédéric Pechtard, mais il vous met aussi en cause, Emmanuel Macron, dans son interview, vous, les Républicains, vous, les Sarkozystes, quand il dit « les responsables politiques qui polémiquent aujourd'hui, ce sont les mêmes qui ont sabré les effectifs lorsqu'ils étaient aux responsabilités ».
Je voudrais... écoutez, ça tombe bien que vous me posez cette question. Je voudrais dire deux choses. La première chose, c'est que la situation sécuritaire n'est pas la même aujourd'hui que quand Nicolas Sarkozy était président de la République. Et je peux vous dire qu'on serait bien content d'être dans la même situation sécuritaire que sous Nicolas Sarkozy.
Donc le problème, ce n'est pas les 10 000 postes supprimés pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy.
Vous ne me ferez jamais dire que... Moi, vous savez, j'étais policier 30 ans et j'ai dirigé la police pendant 5 ans. Vous ne me ferez jamais dire que je n'aurais pas été content d'avoir encore plus de policiers. La vérité, c'est qu'avant de parler de nombre de policiers, qui est quand même une façon très, très primaire d'envisager la sécurité, la première question à se poser, c'est quelle mission on donne à ces policiers ? Et en fonction des missions, quels moyens ? Là, en ce moment, avec la loi sur la sécurité globale, on parle de continuum de sécurité, c'est-à-dire qu'on dit qu'il va y avoir des missions qui vont être confiées à la sécurité privée, aux polices municipales, tout ça doit être pris globalement. Je vous donne un exemple. Là, on va voter bientôt pour les régionales et les départementales. Il va y avoir énormément de procurations. Qui font les procurations ? Les policiers et les gendarmes.
Ça ne devrait pas être leur boulot.
Bien sûr que non. Ou c'est le travail de policiers et de gendarmes que d'établir des procurations. Alors, vous pouvez, si vous recrutez plus de policiers, mais pour faire ce type de travail, ça n'a aucun intérêt en termes d'efficacité.
C'est pour ça qu'il dit qu'il veut voir plus de bleus et qu'on verra plus de bleus, quoi, pour reprendre son expression
écoutez,
sur
j'espère,
le terrain.
J'espère, je vais vous dire quelque chose, j'espère qu'il tiendra sa promesse et j'espère qu'on verra plus de bleus parce que ça sera une bonne chose.
Vous lui faites confiance ou pas sur ces questions-là, Emmanuel Macron ?
Moi, je suis comme saint Thomas, si vous me permettez cette expression. Je crois ce que je vois. Par exemple, dans la chaîne pénale, dans la continuité, c'est bien que les policiers arrêtent et que les magistrats condamnent. Il faut quand même, et c'est le plus important, que les peines soient exécutées. L'importance d'une... Il doit y avoir une sanction. À chaque fois qu'il y a un délit, il doit y avoir une sanction. Cette sanction, elle n'a pas besoin d'être extrêmement sévère. Elle doit être certaine. Eh bien, Emmanuel Macron avait promis... la construction, en 2017, quand il a été élu, de 15 000 nouvelles places de prison dont nous avons grandement besoin. Il y a un peu moins de 60 000 places de prison en France. Il y en a 97 000 au Royaume-Uni, 77 000 en Espagne.
Il en a lancé 7 000 et il dit que les 15 000 seront lancés également.
En 2017, le 1er mai 2017, il y avait un peu moins de 60 000 places de prison. Au 1er mars 2021, vous pouvez aller regarder, ce sont les chiffres du ministère de la Justice, il y en a un peu moins de 60 000.
Mais vous savez qu'il faut du temps pour construire des places. Il faut du temps pour construire des places.
116 de plus. Enfin, c'est sûr que si on s'y prend un an avant la fin du quinquennat, ils seront peut-être lancés, mais je vous fais le pari que sur le quinquennat, il n'y aura pas une place de prison supplémentaire qui aura été construite. Ça, c'est la vérité.
Frédéric Pechtard, on voit que les présidents passent et que les problèmes d'insécurité persistent, voire s'aggravent. Pourquoi, finalement, on a ce sentiment que tous échouent sur ces problèmes de sécurité ? Tous, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron, tous.
D'abord, je ne partage pas votre opinion. Dans la séquence Nicolas Sarkozy...
Pourtant, à chaque fin de quinquennat, on a droit à une campagne sur l'insécurité en disant, et tous les candidats le disent, ça s'est aggravé.
Non, sur la séquence Nicolas Sarkozy 2002 devient ministre de l'Intérieur jusqu'à la fin de son quinquennat, la délinquance n'a cessé de baisser en France. Enfin, honnêtement, je vais vous donner un exemple. Les homicides... Le nombre d'homicides n'a cessé de baisser en France jusqu'en 2012. Et malheureusement, depuis 2014, les homicides remontent. Bon, les homicides, c'est un exemple parmi d'autres, bien sûr. Ça, l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas de chiffre noir et il n'y a pas de campagne de presse qui peut expliquer qu'un chiffre monte ou un chiffre descend. Voilà. Objectivement, nous sommes dans une période, disons depuis 2014-2015, qui n'est pas une bonne période, notamment en termes de violence. Alors là, je ne fais pas de politique, là.
Oui, parce que toute la problématique terroriste qui est arrivée depuis...
Je
ne
fais pas reposer la responsabilité de l'un ou l'autre, mais objectivement, nous sommes dans une société qui devient plus violente. J'ai été frappé, je le dis souvent, par la violence des manifestations qui a eu autour des Gilets jaunes. Vous savez, pendant les 5 années où j'ai été directeur général de la police, nous n'avons pas eu ce type de manifestation, nous n'avons pas eu d'affrontements aussi durs, nous n'avons pas eu d'attentats terroristes, un seul à la fin du quinquennat, mais qui touchait, d'attentats terroristes islamiques qui touchait la France métropolitaine. Mmh. Nous avons eu une délinquance qui était maîtrisée et qui baissait chaque année. Donc on peut faire quelque chose à condition que les politiques aient une volonté forte de le faire. Nicolas Sarkozy avait cette volonté. Je ne suis pas sûr, et ce n'est pas lui faire injure, que le président Macron se soit tout à fait passionné dès le départ, on le dit d'ailleurs, sur les sujets régaliens.
On comprend voilà. Ce que vous dites, il se réveille un peu tard selon vous. Je le disais en vous présentant, et vous l'avez évoqué, vous êtes vice-président du conseil régional en charge de la sécurité, aux côtés de Valérie Pécresse. Donc, sur le sujet, Jordan Bardella, qui est la tête de liste Rassemblement National, vous reproche d'avoir eu la main molle.
Alors lui, c'est le vote mou qu'il a eu. Parce que M. Bardella siège au Conseil régional. Ça fait 5 ans que je fais des propositions et nous votons un certain nombre d'aides. On a voté le bouclier de sécurité, par exemple, qui permet d'aider les maires. C'est une des nombreuses choses qu'avec Valérie Pécresse, on a fait sur la sécurité. Concrètement, un maire veut équiper sa police municipale, veut mettre de la vidéoprotection, il nous demande et nous finançons. Donc j'ai financé la vidéoprotection, les polices municipales dans plus de 300 communes. Pareil sur les lycées. Nous avons fait des travaux de sécurisation dans 532 des 670 lycées d'Île-de-France. Nous avons créé des brigades régionales de sécurité, etc. Ils se sont toujours au mieux abstenus. En tout cas, ils n'ont jamais voté pour. Donc,
parce que lui n'est pas conseiller régional, sauf erreur de ma part.
Si, il est conseiller régional. C'est son groupe, mais ouais. C'est lui aussi. Donc, vous ne pouvez pas avoir le discours qui consiste à dire Pechenard, ce que tu fais, c'est sûrement intéressant, mais ce n'est pas ton boulot, et il faut laisser faire l'État, et en même temps, quand vous êtes candidat, expliquez que vous allez faire différemment.
Et sur une proposition très, très concrète, il dit qu'il faut mettre 2 agents de sécurité armés dans chaque gare SNCF de la région. Vous êtes favorable ou pas?
Je pense qu'il aurait mieux fait de tourner 7 fois la langue dans sa bouche avant de dire une bêtise pareille. Ça n'a aucun sens de dire ça. Quand vous avez des policiers, vous ne les mettez pas un tous les 15 mètres. Vous les mettez à l'endroit où il faut les mettre et à l'heure à laquelle il faut les mettre. Voilà.
Je voudrais savoir, Frédéric Pechenard, si l'ancien patron de la police que vous êtes partage l'émotion de ceux qui ne sont pas satisfaits, entre guillemets, du verdict de la cour d'assises d'appel des mineurs de Paris, qui a condamné 5 jeunes à des peines allant de 6 à 18 ans de prison et en a acquitté 8 autres ce week-end dans ce qu'on a appelé l'affaire des policiers brûlés, entre guillemets, à Viry-Châtillon. Est-ce que vous comprenez cette émotion? Est-ce que vous la partagez?
Bien sûr, je la comprends. Je la comprends d'autant plus que les policiers sont de plus en plus victimes. C'était vrai d'ailleurs quand j'étais policier. Il y a toujours énormément de policiers qui sont tués en service ou qui sont blessés en service. Et disons qu'en ce moment, on a une période où on voit bien que d'ailleurs l'augmentation des violences dont je parlais tout à l'heure touche en premier lieu les policiers et les gendarmes.
Mais est-ce qu'une décision de justice doit être un sujet de débat aujourd'hui dans la société?
Je crois que c'est pas le sujet. Le sujet, c'est pas de débattre d'une décision de justice. Une décision de justice, c'est une décision humaine. Vous avez des magistrats, vous avez des jurés, ils prennent une décision, voilà, ça peut plaire...
Parce qu'ils connaissent un dossier que nous et vous ne connaissons pas.
Bien sûr, ça peut plaire ou déplaire. Après, moi, je me mets toujours à la place des policiers. Évidemment, comme vous êtes victime, vous voulez que... quelles que soient les victimes, vous avez envie d'être reconnu comme victime. Et je crois que la colère des policiers, qu'on va voir d'ailleurs demain, puisque demain il y a des rassemblements un petit peu partout.
Vous soutenez-vous ces rassemblements de policiers demain devant tous les palais de justice?
La colère des policiers, je ne pense pas qu'elle doive être dirigée, qu'elle soit dirigée contre l'institution, contre l'autorité judiciaire. Elle est dirigée contre le fait que ce qui est insupportable, c'est pas qu'un tel ait pris 6 ans et l'autre 10 ans, c'est pas ça. Ce qui est insupportable, c'est qu'il y ait des gens qui attaquent des policiers pour les tuer alors qu'ils sont en faction. Voilà. C'est ça qui est insupportable. Et c'est là où je me sens évidemment complètement solidaire des policiers.
Et vous soutenez ces rassemblements demain?
Moi, je crois qu'il y a un moment où les policiers ont le droit de manifester. Ils vont manifester pour dire qu'ils ne veulent pas être pris systématiquement pour cible. Ils font un métier qui est difficile, qui est dangereux. Ils prennent le risque, mais il faut aussi que justice leur soit rendue.
Merci à vous, Frédéric Pechenard, d'être venu ce soir dans RTL Soir. Merci infiniment.
Merci.
À suivre, Nico Saliagas. Il expose les Parisiennes sur les grilles de l'Hôtel de Ville à partir de demain. C'est en plein air et c'est gratuit. Et il sera en direct avec nous juste après le rappel des titres de 18h30.
Thomas Soto, RTL Soir. RTL Soir, avec avec Thomas Soto.
Et Aude Vernuccio pour le rappel des titres. Aude.
Emmanuel Macron promet de tenir son objectif de 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires d'ici 2022, déjà 7 000 recrutés. Le chef de l'État s'est rendu à Montpellier aux côtés des forces de l'ordre avec une visite dans un véhicule de la BAC suivi d'un bain de foule pas nécessairement très Covid compatible. Les derniers chiffres de l'épidémie et les cas graves en réanimation repartent à la hausse ce lundi. 5 970 personnes soignées dans ces services en raison du Covid. L'application Tous Anti-Covid transformée depuis une demi-heure, elle peut aussi stocker les résultats de tests PCR et antigéniques, une sorte de passe sanitaire qui pourrait bientôt faciliter les voyages. Et puis c'est un crachat au visage des amoureux du football pour l'UEFA. Les instances européennes de foot s'élèvent contre la Super League et promettent des représailles contre cette proposition de 12 gros clubs, le Real Madrid et les deux Manchester en font partie. Les politiques s'en mêlent, le ministre britannique des Sports promet de faire tout son possible pour bloquer le projet.
La météo, Céline Dacosta, il y aura un petit peu moins de soleil demain, il fallait bien en profiter.
Mais c'est vrai, les nuages vont arriver par l'ouest en fin de matinée. On fera également attention au brouillard qui sera bien présent près des frontières du nord. En les attendant, ces nuages, on aura encore un petit peu de soleil le matin, Thomas, on en profite, vous l'avez dit. Il sera beaucoup plus timide l'après-midi, surtout entre la Bretagne, la Nouvelle-Aquitaine et la Côte d'Azur. On pourrait même avoir localement quelques petites averses. Les températures, elles vont rester fraîches le matin, mais en hausse par rapport à aujourd'hui. 5 à 8 degrés, printanière l'après-midi, 15 à 18 degrés en moyenne du nord au sud.
Merci à vous, Céline. C'est plus fort que lui, Nico Sayaga. C'est déjà en train de prendre des photos dans le studio. 35 photos exposées sur les grilles de l'Hôtel de Ville de Paris à partir de demain, avec un thème unique, les Parisiennes, et donc un photographe, Nico Sayagas. Bonsoir Nico, et bienvenue dans RTL Soir.
Merci de m'accueillir.
Alors on va pas se raconter d'histoire, on se connaît bien, même si vous faites partie de ces personnes qui, contrairement aux apparences, sont tellement pudiques qu'on se demande parfois si on les connaît vraiment. On va commencer avec cette expo. Pourquoi les Parisiennes?
Parce que j'ai toujours été interpellé par ces femmes, quand j'étais gamin, que je croisais sur les grands boulevards en tenant la main de mon papa ou de ma maman, et qui avaient ce je ne sais quoi de chic, mais pas apprêté. Mmh. Une tenue de route mystérieuse, comme si elle sortait d'un film ou d'une scène de théâtre. Et parce que, depuis toujours, quand je suis dans les rues de Paris, qui est la ville dans laquelle je suis né, je me dis, mais quelle chance, on se croirait dans un théâtre. Et ces figures qui passent devant vous, à la fois mythologiques et en même temps très inspirantes, qui ne demandent pas la lumière, méritaient qu'on s'arrête quelques secondes pour quelques clichés, quelques photographies.
Mais en même temps, les Parisiennes, quand on en parle loin de Paris, quand on s'éloigne d'elles, elles n'ont pas toujours très bonne réputation, elles sont toujours pressées, elles ne sont pas toujours aimables. Qu'est-ce que vous voyez, vous, quand vous les regardez, quand vous les photographiez?
Les Parisiennes que j'ai essayé de photographier, en tous les cas, et que j'ai retenues dans mon cadre, sont celles qui ne demandent rien. Ce ne sont pas celles qui sont dans le paraître et dans la posture, justement, pour avoir le dernier vêtement à la mode, mais ce sont les protagonistes du quotidien.
Mais c'est qui? Vous les avez choisis comment? Vous les connaissiez? Vous avez fait un casting? Vous avez shooté dans la rue? Comment ça s'est fait?
À la fois dans la rue, mais aussi par thème. J'ai voulu aller voir les infirmières au petit matin. Quand les autres partent travailler, elles finissent une nuit qui, par les temps qui courent, fait que cette nuit est horrible et difficile, mais elles ne disent rien. Et après le petit café et le masque qui tombe, le métro pour rentrer à la maison. Je suis aussi allé voir, entre la République et la gare de l'Est, une coiffeuse de 88 ans qui vit dans son salon depuis 52 ans, dans le jus, dans l'ambiance de l'époque. Les gens ne la voient plus, mais elle nous voit encore. C'est ces personnes-là que j'ai voulu honorer, tout simplement.
Et qui seront donc affichées sur les grilles autour de l'Hôtel de Ville de Paris.
Elles le sont rue de Rivoli, je les ai affichées, je les ai montées ce matin.
Et donc elles y sont déjà si vous êtes dans le quartier. Alors c'est pas votre première exposition, loin de là, vous en avez notamment fait plusieurs à Paris, avec à chaque fois des lieux inattendus. Il y a eu le toit de la Grande Arche, il y a eu la Conciergerie, il y a eu le Palais Brongniart, la Bourse de Paris... L'écrin d'une exposition, le lieu où elle est organisée, où elle se fait, ça raconte quelque chose aussi?
Il faut être à la hauteur de celui qui vous invite, de la puissance invitante.
Ça vous met une pression?
Évidemment. Ouais. L'espace qui est proposé, par exemple, à la Conciergerie ou sur le toit de la Défense, est plus fort que toi. Donc il ne faut pas y aller avec beaucoup de certitude, il ne faut pas essayer de démontrer à tout prix. Moi, j'essaie juste de raconter ma petite histoire. Ouais. Et la rue, revenir à la rue, c'est-à-dire proposer des photographies qui est une écriture, une signature, un engagement à la rue, à celui qui passe. C'est un peu comme l'auditeur ou le téléspectateur qui fait autre chose, qui fait sa vie et qui va peut-être vous écouter, vous regarder. Eh bien, une photographie, c'est pareil. C'est une fenêtre que je lui propose. Il n'a pas toutes les clés, c'est un cadre. Peut-être qu'il pourra voyager ou ressentir quelque chose ou se souvenir d'une partie de lui-même dans une photo de quelqu'un d'autre.
Et ce dont on se souviendra ces mois-ci et presque ces années-ci maintenant, c'est que nos visages en ce moment, ils ont masqué. Est-ce que, avec ce Covid, est-ce que nos visages, nos attitudes ont changé depuis la pandémie? Est-ce que vous voyez apparaître sur vos photos quelque chose de différent d'avant? Ça nous a changé ou pas?
Beaucoup. D'abord, il y a le masque social avant le masque de la protection.
Et celui-là, il a toujours été là.
Il a toujours été là. Donc, on a superposé des masques. Mais les yeux, je vais le dire, c'est assez banal, mais les Grecs l'ont toujours dit, ce sont les miroirs de l'âme. Donc, on peut deviner, on peut lire un visage et surtout, on peut consolider un lien différemment. On ne se donne plus les mains, on ne se touche plus, on ne s'embrasse plus, mais on se regarde. Et on peut signifier quelque chose. Par exemple, j'ai une photo dans l'expo où je vois deux dames, place des Abbesses, la soixantaine passée, le masque baissé, assise sur un banc avec une bière, morte de rire. Alors je commence à les photographier de loin, elles me disent « Oh non, surtout pas de photo, monsieur !» J'ai dit « Pourquoi ?» Nos maris pensent qu'on est en train de faire des courses. Et je la garde, mais je dis bah, « C'est une bonne raison pour la garder, parce qu'en même temps, c'est une forme de résistance. » Je ne dis pas qu'il ne faille pas mettre le masque, au contraire, c'est la seule protection qu'on a avec tous les gestes barrières qu'on connaît. Mais en même temps, voir ces dames plutôt âgées, c'est pour elles qu'on se bat aussi, c'est pour nos mères, nos grand-mères, nos tantes. Rire, ne serait-ce que quelques secondes, ça fait du bien.
Et c'est vrai que j'ai vu cette photo, elle rit de bon cœur et c'est communicatif. Qu'est-ce qu'elle révèle de nous, cette pandémie, Nikos Aliagas ?
Que nous sommes de passage, que nos certitudes, nos petits bobos du quotidien, nos priorités, notre suprématie peut-être sur les choses de la vie et même sur cette planète ne valent pas le coup.
Notre fragilité, nos peurs peut-être ?
Mais oui, c'est que tu es de passage comme les autres et que tu es logé à la même enseigne. Et puis nous sommes dans une société, notamment en Occident, où on cache la finitude. Nous cachons la mort. On n'en parle pas. Ouais. On dit, elle est partie, c'est la vie. Excusez-moi, mais on a eu 100 000 personnes décédées en France. Je ne parle pas du reste du monde. Est-ce qu'on peut visualiser et comprendre ce qu'est de perdre 100 000 personnes depuis le début de cette histoire ? C'est une ville entière. Donc, à force de ne pas regarder, entre guillemets, et je ne veux pas plomber l'ambiance, la notion de la fin qui est la nôtre, et à force de cacher la mort sous le tapis, quand elle nous rattrape, c'est le vide et ça fait mal. Donc qu'est-ce que ça dit de nous ? Que nous sommes de passage. Et c'est parce que nous sommes de passage que nous devons trouver la justesse dans nos actes et dans l'amour qu'on doit donner aux autres.
Et que la photo nous donne évidemment des repères temporels de ce qu'on est ou de ce qu'on aura été. Vous exposez à la mairie de Paris, chez Anne Hidalgo. Le mois dernier, vous décrochiez une interview d'Emmanuel Macron. Vous allez finir Premier ministre, non, Nikos Aliagas
et... En Grèce, vous voulez dire.
revenons sur cette
mon
interview.
Mon père m'a toujours dit pas de politique.
Pas de politique.
Pas de politique.
On va quand même revenir sur cette interview du chef de l'État. C'était à l'occasion de l'anniversaire de la Révolution grecque.
Du bicentenaire de l'indépendance, oui.
Comment vous faites pour la décrocher, cette interview?
Juste, j'envoie un mail à son bureau de presse, qui s'occupe notamment des relations avec la presse étrangère. C'est une interview que je fais à la suite de la demande de la télévision grecque pour laquelle j'ai travaillé pendant des années. Et voilà, je le tente, tout simplement, en tant que journaliste.
Alors ça, en tant que journaliste, c'est intéressant, parce qu'on sait qu'en France, on classe, on sectorise, on définit des périmètres. Nikos, il est dans la case animateur.
Oui.
Quand vous interviewez Emmanuel Macron, le chef de l'État, vous vous dites quoi? Vous dites « je suis pas légitime ou je les emmerde ?»
C'est une question qu'on se pose avant, mais c'est une question que je me posais aussi quand je suis arrivé dans le divertissement. Je me disais, est-ce que je suis légitime ? Mais une fois que la machine est en route, une fois que j'ai mon rendez-vous et que je dois faire mon interview, je ne me pose pas ce genre de questions. J'ai jamais...
Mais vous savez que ça peut se dire autour de vous ?
Oui, mais ça fait partie du deal. Quand on est dans la lumière, ça coûte cher. Quand on est dans l'arène, on doit être prêt à recevoir des critiques, à être jugé. Curieusement, ce ne sont pas les gens qui se posent ce genre de questions.
C'est le métier.
Oui, mais c'est aussi légitime. Je peux le comprendre et je peux l'entendre jusqu'à un stade. Mais je ne veux rien prouver. Je veux juste faire ce que j'ai toujours fait, mettre quelqu'un d'autre dans la lumière et essayer de comprendre. Sans jugement, sans essayer de prouver que j'ai la bonne question. J'accompagne, j'écoute. Et selon les analyses que nous allons partager ensemble dans cette dialectique, Ben je laisse les gens tirer leurs propres conclusions.
Et la photo, est-ce que c'est aussi une façon d'échapper à ça, de se retrouver, de vous retrouver seul, de tracer votre route, comme vous dites
C'est un dialogue.
Ouais.
Thomas, c'est un dialogue, la photographie. Je ne la fais pas tout seul.
Mais qu'est-ce que ça vous apporte de plus que le reste, de plus que la télé? Vous êtes au sommet en télé, The Voice, ça cartonne, The Insight, ça passe. Vous êtes Michel Drucker, quoi, aujourd'hui.
Arrêtez, il n'y a qu'un Michel Drucker.
Oui, il ne faut pas dire ça. Parce
qu'il sera là encore très longtemps, et c'est mon ami Michel.
Non, mais là, vous redevenez le Nikos de la télé. Ouais. Qu'est-ce que ça vous apporte de plus?
Taper
un, taper deux.
Ça m'apporte. C'est pas quantifiable. C'est un espace-temps qui est nécessaire. Parce que je suis effectivement exposé de par mon métier, mais ça ne veut pas dire que je prends la parole. Curieusement, je la prends en photographiant.
Ouais.
Parce que la photographie, étymologiquement, vous qui aimez la Grèce, mon cher Thomas, ça veut dire l'écriture de la lumière. Et ça marche aussi avec l'ombre, ce qui est à la fois. C'est une forme de prise de parole, c'est un engagement, et c'est une façon aussi de dire toute ma gratitude et ma compassion envers les uns et les autres. Et peut-être que compassion n'est pas le bon mot. Alors, l'empathie, je ne l'aime pas non plus parce qu'il est un peu surfait. Mmh. C'est juste ma fraternité et leur dire on est de passage. L'instant que je viens de photographier, qui est éphémère, il est déjà mort. Mmh. Mais notre lien, ce que nous avons instauré tous les deux, bah, il est suspendu. Il est au-dessus de cette dynamique et de l'inexorable temps.
Je voudrais vous montrer une photo. Pardonnez-moi, c'est pas une photo de vous pour le coup. C'est une photo prise par Jean-Marie Perrier. C'est Jean-Paul Belmondo avec Alain Delon dans Borsalino. Je sais que cette photo, elle raconte aussi votre histoire. Pourquoi ?
D'abord, Jean-Marie Perrier est un homme extraordinaire. Je vais vous parler de mon histoire. Cette photo, je l'ai demandé à Jean-Marie Perrier et il a eu la gentillesse de me l'envoyer. J'ai toujours admiré Delon et Belmondo, mais surtout pour ce film, parce que mon père, qui est venu en France en 64, sans parler la langue, à la gare de Lyon, avec sa petite valise, sa paire de ciseaux et son manteau, tailleur, était aussi dans l'équipe des petites mains du film Borsalino, pour la maison de couture de l'époque dont le nom m'échappe. Et c'est mon père qui a travaillé sur ce costume jour et nuit avec ma mère, dans leur petite chambre de bonne, à quelques pas de l'hôtel de ville. Et je ne peux pas l'oublier. Et quand j'allais à l'école et que je leur disais « mon père a habillé de long », personne ne me croyait. On ne me croyait pas, parce que mon père avait un accent, parce que ma mère arrivait et ressemblait pas aux autres, parce que je m'appelais Nicolas Osaliagas, et Dieu sait que je me sens enfant de la République et je suis redevable à la France, parce qu'elle m'a donné la même éducation que les autres. Mais on ne me croyait pas que mon père avait habillé Delon. Et quelques années plus tard, j'ai 30 ans, je fais une conf de presse sur TF1, une conf de presse de rentrée, et Alain Delon est à côté de moi. Et je lui dis, vous savez, mon père a peut-être travaillé sur votre costume. Il me dit, comment il s'appelle ton père? Et je dis, Andreas, appelle-le, il se souvenait de tout. Et finalement, c'est Delon qui m'a juste rappelé que mon père ne m'avait jamais menti. Et donc, cette photo est importante parce que dans chacune, si vous regardez sur le revers, on voit le fil cousu à la main. Eh bien, chaque fil, chaque coup d'aiguille, ce sont celles d'un jeune homme qui est arrivé en France pour une vie meilleure. Et grâce à qui je suis là devant vous aujourd'hui.
Ce fil, c'est ce fil qui vous relie.
C'est le fil d'Ariane.
C'est au nom du père, Nikos Aliagas, aujourd'hui.
Bien sûr. On doit énormément à nos papas et à tous ceux qui viennent d'ailleurs et qui nous ont fait aimer la France et la République française. Parce qu'on ne voulait pas déranger. On ne voulait pas voler notre place ou prendre la place d'un autre. Mais on voulait essayer. Et mon père m'a appris à essayer, tout simplement. Et c'est à lui que je voudrais rendre hommage. Et cette photo me bouleverse. Et quand Jean-Marie Perrier me l'a envoyée, j'étais très, très ému. Très ému.
Dernière question. Quand vous regardez une photo de vous, Nico, une vraie photo, pas maquillée, pas une vraie photo de vous, vous voyez quoi? Vous voyez qui?
Un gamin qui rêvait de faire des choses de dingue. Des choses dingues, en fait. De monter sur des petites scènes comme ça, d'essayer de faire le spectacle. Et puis finalement, je le vois, ce gamin, et je me dis, il a eu raison d'assister. Un gamin de 52 ans, je précise. Mais vous êtes tellement jeune, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est.
Il doit être fier là-haut.
J'espère que je ne l'ai pas déçu. Et il est là-haut, mais il est aussi là, il est dans mon cœur. Nos parents deviennent boussole quand ils ne sont plus là.
Merci beaucoup, Nikos Aliagas. L'expo s'appelle Parisienne. Elle sera visible gratuitement autour de l'hôtel de ville, du côté de la rue de Rivoli, dès ce soir, du coup, et jusqu'au dimanche. Elles vont devenir quoi, ces photos, après ?
On peut les donner à des associations, en général.
Des ventes aux enchères.
Oui, je le fais régulièrement pour des ventes aux enchères, évidemment.
Eh ben, merci à vous d'être venu. Et si vous vous baladez dans la capitale, allez jeter aussi un œil au chat que Philippe Guéluc a exposé en bas des Champs-Élysées. Ça fait de la culture en plein air, de la culture accessible.
Et gratuite.
Et c'est vraiment agréable. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Merci.
À vous, Thomas.
Qui a gagné The Voice, au fait, on ne sait pas encore.
Ben, je ne sais pas encore.
Vous n'avez pas un piston, il y a plein de trucs montés. Non, vous n'avez pas un truc à
nous. Venez dans The Voice, je vous ferai chanter.
Oui, et ben, vous allez perdre l'audience. On va faire grimper la concurrence. Merci beaucoup, Nico Saliagas. Ça a été la bonne nouvelle du week-end. La jeune Mia, retrouvée saine et sauve en Suisse, a donné comme une envie d'alpage à Julia Molcou, qui va nous transporter ce soir encore dans la culture de l'actu.
RTL Soir.
Thomas Soto,
RTL Soir.
Il est 18h51, parce que c'est en Suisse qu'hier a été retrouvée la petite Mia, enlevée mardi dernier, et sa mère. C'est un petit tour culturel helvétique que vous nous proposez ce soir, Julia Molcou. Bonsoir.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
On se lève.
Le cantique suisse, c'est l'hymne national officiel du pays. Voilà, il s'appelle le cantique suisse. Et il a été élu hymne national officiel depuis 1981. Pourtant, un tiers des Suisses ne le connaissent pas du tout. L'hymne a évidemment ses versions italiennes, allemandes et romanches, puisque le pays, vous le savez, possède 4 langues officielles, ce qui s'explique par la situation géographique de la Suisse et ce qui se retrouve un peu partout dans sa culture, qui est totalement imprégnée de traditions latines et germaniques. Eh oui. Alors elle s'appelle Mélanie Hoch et c'est la reine du yodel. Le yodel, c'est cette technique de chant qui consiste à passer de façon très rapide d'une voix de poitrine à une voix de tête. C'est évidemment l'un des piliers de la musique populaire là-bas, mais c'est pas le seul. Connaissez-vous le ranse des vaches ?
Pas du tout.
Alors ça, c'est un chant traditionnel extrêmement célèbre en Suisse, qui parle d'alpage et de vaches donc. Et on raconte qu'au XVIIIe siècle, eh bien, les mercenaires suisses au service des rois de France fondaient en larmes, désertaient ou pire, se laissaient mourir lorsqu'ils entendaient ce chant. Ça leur filait un terrible mal du pays, au point que le soldat qui était prêt en train de siffloter cet air dans le régiment était passible de peine de mort.
Ah oui, ça plaisante pas.
Hein. Ouais, alors, ça plaisante.
Qu'est-ce qu'on peut dire du cinéma suisse ?
Bah, d'abord qu'il est plurilingue, lui aussi. Dans les films suisses, on parle toutes les langues. Ensuite, que c'est la neutralité de la Suisse, sujet sensible et ambigu qu'on n'abordera pas, mais qui a joué un rôle dans le développement de ce cinéma. Parce que dès la Première Guerre mondiale, les pays étrangers n'ont plus envoyé leurs films dans les salles de cinéma suisses, obligeant donc le pays à produire ses propres films. Enfin, au sujet du cinéma suisse, on peut dire que les paysages naturels du pays sont les premiers décors. Bah si, Thomas, pensez à Heidi, ses alpages, ses chèvres, dans le canton du Grison.
Et ça vous fait beaucoup rire, Heidi. Ça nous fait une belle transition, parce que la Suisse est aussi une terre d'humoristes.
Alors, on peut citer Zouk, que les moins de 30 ans ne connaissent pas toujours, mais qui a été très célèbre dans les années 70-80. Mais on peut aussi citer l'irrévérencieux Gaspard Proust, que les jeunes, pour le coup, connaissent très bien.
Les gens d'autrefois étaient beaucoup plus brillants que les gens d'aujourd'hui. C'est pas réac que de dire ça. Et je le prouve. Sous Jules César, les esclaves parlaient latin. Trouver une femme de ménage qui parle grec. Enfin, ça va encore arriver. Ça, c'est dans les tuyaux, ça arrive. Hein, ça.
Voilà. Et puis évidemment, on chante en Suisse. Et pas que du yodel. Bah, vous pouvez penser à Stéphane Echer ou encore à Patrick Juvet, disparu récemment. Il y a un petit nouveau dans le paysage de la chanson suisse, une sorte de reconversion, qui en septembre dernier sortait son premier titre, une reprise des Beatles.
What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me?
Ouais, dis donc.
Vous l'avez reconnu?
Bah, Roger.
Et oui,
ouais, pas
c'est
avec Roger,
Roger Federer. Et vous savez à quelle occasion il a repris ce titre des Beatles?
Parce qu'il savait que vous alliez faire une chronique sur la Suisse et il s'est dit, il faut que j'ai un truc pour Soto.
Exactement. Ça, c'était la première raison. La deuxième, c'est parce qu'il est l'égérie du réseau Télécom Suisse. Et donc voilà, c'est leur nouvelle pub. Avec lui, il chante, il danse. Je vous recommande vivement ce petit clip.
Il sait tout faire. Il sait faire les pattes avec
ça,
Barilla.
C'est lui, ça.
Il sait faire la vie. Avec la superbe nouvelle suisse du week-end aussi. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'il sera normalement à Roland-Garros.
À Roland-Garros,
posez-vous RTT, c'est le moment. With a little help.
Ils chantent bien.
On se mettrait pas quand même un petit Stéphane Echer? Parce que quand même, déjeuner en paix par exemple. Déjeuner en paix. Merci Gabriel Caradoni en régie. Tiens, on va faire la météo avec. On n'a pas de pub entre maintenant et la météo, donc on peut y aller. Céline Dacosta.
Oui.
Déjeuner en paix, le printemps s'installe.